Il y a les sept. C'est le témoignage de ce par quoi Joyce reste enraciné dans son père tout en le reniant. Et c'est bien ça qui est son symptôme. J'ai dit qu'il était le symptôme. Toute son œuvre en est un long témoignage. Exhale, c'est vraiment l'approche de quelque chose qui est pour lui, enfin, le symptôme central. Donc, bien entendu, dont il s'agit, c'est du symptôme fait de la carence propre au rapport sexuel, mais cette carence ne prend pas n'importe quelle forme. Il faut bien que cette carence prenne une forme. Et cette forme, c'est celle de ce qu'il noue à sa femme, à la dite Nora. À la dite Nora, pendant le règne de laquelle il élucubre les exiles, les exilés, comme on l'a traduit. Alors que ça veut aussi bien dire les exils. Exil, il ne peut pas y avoir de meilleur terme pour exprimer le non-rapport. Et c'est bien autour de ce non-rapport que tourne de tout ce qu'il y a dans Exiles. Non rapport, c'est bien ceci, c'est que il n'y a vraiment aucune raison pour qu'une femme, entre autres, il la tienne pour sa femme. Qu'une femme, entre autres, est aussi bien celle qui a rapport à n'importe quel autre homme. Et c'est bien de cet n'importe quel autre homme qu'il s'agit dans le personnage qu'il imagine et pour lequel, à cette date de sa vie, il sait ouvrir le soi de l'une femme en question, qui n'est autre dans l'occasion que Nora. Le portrait qu'il a fini à l'époque, celle que j'évoquais à propos de la conscience incréée de sa race, à propos de laquelle il invoque l'artificeur par excellence que serait son père, alors que c'est lui l'artificeur, que c'est lui qui sait ce qu'il a à faire, mais qui croit qu'il y a une conscience incréée d'une race quelconque. En quoi c'est une grande illusion. Qui croit aussi qu'il y a un book of himself, quelle idée de se faire être un livre. Ça ne peut venir vraiment qu'un poète rabougri. Un bougre de poète. Pourquoi dit-il pas plutôt qu'il est un nœud? Ulysse, venons-en là. Qu'on puisse l'analyser. Car c'est sans aucun doute ce que réalise un certain Fechner. Comme ça, pendant que je rêvais, j'ai cru qu'il s'appelait Fechner. C'était plus facile à écrire. Non, il s'appelle Fechner. C'est regrettable. Il n'est pas Fechner du tout. Il s'imagine qu'il est analyste. Il s'imagine qu'il est analyste parce qu'il a lu beaucoup de livres analytiques. C'est une illusion assez répandue parmi les analystes, justement. Et alors, il analyse Ulysse. Ça donne, ça fait une impression absolument terrifiant. Contrairement à Sir Fawcett Symbol, cette analyse d'Ulysse, exhaustive naturellement, parce qu'on ne peut pas s'arrêter quand on analyse un bouquin, n'est-ce pas? Freud, quand même, a fait la pub des articles, et des articles limités, n'est-ce pas, d'ailleurs. Mis à part Dostoïevski, il n'a pas proprement parlé, analysé de romans. Il a fait une petite allusion à le Rosmersholm d'Ibsen. Mais enfin, il s'est contenu. Ça donne vraiment l'idée que l'imagination du romancier, je veux dire celle qui règne dans Ulysses, est achetée au panier. C'est pas du tout, d'ailleurs, quelque chose qui soit mon sentiment, mais il faut tout de même s'obliger à y ramasser dans Ulysses quelques vérités premières, et c'est ce que j'abordais à propos de l'énigme. Voilà qu'à ses élèves propose le cher Joyce sous les espèces de Stephen, comme énigme. C'est une énonciation, ce coq crou. Le coq cria, the sky was blue. The bells in heaven, les cloches dans le ciel, were striking 11. Était sonnante 11 heures. Tis time for this poor soul. Il est temps pour cette pauvre âme to go to heaven. Je vous donne en mille quelle est la clé. Quelle est la réponse? C'est celle qu'après, bien sûr, toute la classe a donné sa langue au chat. Joyce fournit. The fox, burying his grandmother under the bush, C'est le renard enterrant sa grand-mère. Tout l'imbécile. Bon. Ça n'a l'air de rien. Mais il est incontestable que, à côté de l'incohérence de l'énonciation, dont je vous fais remarquer que, qu'elle est en vers, c'est-à-dire que c'est un poème, que c'est suivi, que c'est une création. À cause de ça, ce tirnard qui enterre sa grand-mère sous un buisson est vraiment une misérable chose. Qu'est-ce que ça peut avoir comme écho pour, je ne dirais pas bien sûr pour tous les gens qui sont dans cette enceinte, mais pour ceux qui sont analystes. C'est que l'analyse c'est ça. C'est la réponse à une énigme. Et une réponse, il faut bien le dire, par cet exemple, tout à fait spécialement conne. C'est bien pour ça que il faut garder la corde. Je veux dire que si on n'a pas l'idée de où ça aboutit, la corde, au nœud du non-rapport sexuel, On risque de bafouiller. Le sens. Ah, faudrait que je vous montre ça.
Le sens résulte d'un champ. Pensons qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, tout au moins pas de jouissance, de l'autre de l'autre. Il faut bien que nous fassions la figure, quelque part, ici nommément, entre ce symbolique qui se fait dans l'âme. C'est imaginaire. Bien sûr, ici, le petit artiste, la cause du délit. Oui. Il faut bien que nous fassions quelque part le nœud.
le nœud de l'imaginaire et du savoir inconscient. Que nous fassions ici quelque part une tout ça pour obtenir un sens. Qui est l'objet de la réponse de l'analyste à l'exposé par l'analysant tout au long de son symptôme. Quand nous faisons cette épissure, nous en faisons du même coup une autre,
celle-ci, entre précisément ce qui est symptôme et le réel,
c'est-à-dire que par quelque côté, nous lui apprenons à épicer avec deux S, à faire épicure entre son symptôme et le réel parasite de la jouissance, ce qui est caractéristique de notre opération. Rendre cette jouissance possible, c'est la même chose
que ce que j'écrivais, oui,
c'est la même chose que d'ouïr un son. C'est de suture et d'épissure qu'il s'agit dans l'analyse. Mais il faut dire que les instants, nous devons les considérer comme séparés réellement, imaginaires, symboliques et réels, ne se confondent pas. Trouver un sens implique de savoir quel est le nœud. Et de le bien rabouter grâce à un artifice. Faire un nœud avec ce que j'appellerais une chaîne borroméenne, est-ce qu'il n'y a pas là abus ? C'est sur cette question que je laisserai pendant que je vous quitte, je pourrai laisser le temps à ce cher Jacques Aubert, à qui je comptais de confier le crachoir pendant le reste de la séance, de vous parler maintenant. Il est temps que nous nous séparions, mais la prochaine fois, étant donné ce que j'ai entendu de lui, puisqu'il a eu la bonté de m'appeler vendredi par téléphone, étant donné ce que j'ai entendu de lui, je crois qu'il pourra, sur ce qu'il en est du Bloom en question, recevoir, mon Dieu, de quelqu'un qui n'est pas plus mal placé qu'un autre pour piger quelque chose à l'analyse, puisque c'est un juif, sur ce Bloom et sur la façon dont est ressentie la suspension entre les sexes, celle qui fait que le nommé Bloom ne peut que s'interroger s'il est un père ou une mère.
L'accord signé du 20 janvier 1976.
Il doit vous apparaître.
Je le suppose. Si vous n'êtes pas trop arriéré pour ça, il doit vous apparaître que je suis embarrassé de Joyce comme un poisson d'une pomme. C'est lié, évidemment, je peux le dire parce que je l'éprouve ces jours-ci journellement, c'est lié évidemment à mon manque de pratique. Disons, à mon inexpérience de la langue dans laquelle il écrit. Non pas que je sois totalement ignorant de l'anglais. Mais justement, il écrit l'anglais avec ses raffinements particuliers qui font que la langue anglaise, à l'occasion, la désarticule. Il ne faut pas croire que ça commence à Finnegan's Wake. Bien avant Finnegan's Wake, il a une façon de hacher les phrases dans Ulysses notamment. C'est vraiment un processus qui s'exerce dans le sens de donner à la langue dans laquelle il écrit un autre usage. Un usage en tout cas qui est loin d'être ordinaire. Ça fait partie de son savoir-faire, et là-dessus, j'ai déjà cité l'article de Solers. Il ne serait pas mauvais afin que vous en mesuriez la pertinence. Alors, il en résulte que ce matin, je vais laisser la parole à quelqu'un qui a une pratique bien au-delà de la mienne, non seulement de la langue anglaise, mais de Joyce nommément. Il s'agit de Jack Aubert, et je vais, pour ne pas m'éterniser, je vais tout de suite lui laisser la parole, puisqu'il a bien voulu prendre mon relais. Je je l'écouterai avec toute la mesure que j'ai prise de son expérience de Joyce. Je l'écouterai. Et j'espère que les réflexions petites, n'est-ce pas, je lui ne conseille pas d'abréger, bien loin de là. Les réflexions petites que j'aurais à y ajouter seront faites avec tout le respect que je lui dois pour le fait qu'il m'ait introduit à ce que j'ai appelé Joyce le symptôme.
Dernier, Lacan a annoncé que Joyce se trouverait dans son cheminement. Le fait que je sois ici aujourd'hui ne signifie nullement que je me trouve sur ce chemin royal, n'est-ce pas ? Il faut tout de suite préciser que je suis plutôt sur les accotements. Et en général, vous savez pourquoi on les signale, les accotements, et que c'est plutôt des propos à la cantonnier que vous allez entendre. Il faut que je remercie Jacques Lacan de m'avoir invité à produire un travail bâclé. Bâclé, je précise, donc un travail pas bouclé. Pas bouclé du tout, pas bien fait, et pas, disons, articulé trop bien sur ce qu'il en est des nœuds. D'un autre côté, je voudrais indiquer que ce que je vais vous dire part d'un certain sentiment que j'ai eu de ce qui se faufilait dans le texte de Joyce, dans certains textes de Joyce, en certains points, qu'il s'agissait, semblait-il, de quelque chose que Joyce faufilait. Et cette conscience du faufil m'amène justement à ne pas insister sur ce qui pourrait faire, au contraire, pièce définitive. Pour situer le point dont je suis parti,